Salut Daniel, l'animateur modeste et génial. Bah écoute, c'est Sophie de Paris. Je viens de terminer ton émission, là, le cercle du succès. Ah bah ouais, on est des winners, hein, ça y est, on est tous des winners et on va tous les manger, quoi. Mais non, sinon je voulais dire, bah moi je suis une jeune journaliste, je vais avoir 27 ans, ça fait trois petites années que je suis un petit Jedi de l'info, et voilà, je voulais juste te dire merci, ainsi qu'à toute l'équipe. Moi je travaille dans la grande tour des grands méchants loups qu'on voit du périphérique à Paris. Et ben écoute, quand je sors du boulot à 15h et que je mets France Inter, ben, c'est une vraie, vraie bouffée d'air. Je me dis que je suis pas toute seule et que peut-être même que dans la grande tour, il y a peut-être des gens comme moi. Enfin, on peut rêver. Allez, salut.
Maman ? Maman ?
Papa ?
Qu'est-ce qu'il y a, mon fils, encore ?
Papa, j'ai faim.
Tu as déjà mangé hier. Tu ne peux pas manger tous les jours, tu le sais.
Mais j'ai faim, j'ai mal au ventre, je veux manger.
Bon, je vais te donner encore une galette de terre. Mais cette fois-ci, on la coupe en deux. D'accord ?
Oui, merci papa.
Tiens, mange ta galette de terre. Bon appétit, mon fils.
Michael de Haute-Provence, bonjour à tous. L'autre jour, j'ai rêvé que devant le Palais de la Bourse à Paris, un groupe de gens très bien habillés chantaient tous en chœur. Paquet fiscal, paquet fiscal, paquet, paquet fiscal, paquet fiscal, paquet. Puis, ils scandaient, on a gagné, on a gagné. Certains portaient des pancartes, salaud de pauvre, salaud de malade, salaud de chômeur, marre de vos voix plaintives. Je me suis réveillé en cerceau, terrorisé. Puis j'ai réalisé que ce n'était qu'un cauchemar. Un peu plus tard, replongé dans la vie de tous les jours, j'ai été complètement rassuré et j'ai crié comme tout le monde « Merci Sarko !» Ciao à tous et un vrai merci à toi Daniel.
On est dimanche matin et je viens d'entendre que le Nain de Jardin allait doubler l'aide alimentaire pour Haïti et aussi qu'un officiel quelconque allait visiter une école qui reçoit des repas. De cet organisme dont M. Ziegler a parlé là, celui qui va arrêter ses distributions. Alors voilà, j'ai signé la pétition contre la spéculation. Mais ce sont bien mes impôts qui vont colmater les brèches pour que des salauds puissent continuer librement à spéculer à San Francisco. Il y a vraiment crime contre l'humanité et il y a une cour de justice chargée de ces crimes. Pourquoi est-ce que seuls les militaires et les politiques se voient traduits devant elle? Pourquoi le pouvoir économique peut-il tuer en toute impunité? Ou plutôt comment? Comment fait-on pour traîner ces salauds en justice devant cette cour de justice? C'était Annick de Lyon.
Une femme d'exception dont le courage, l'engagement et l'humanisme ont été les guides de toute une vie. De qui parle là, Sarkozy? Je vous le donne, Émile. D'Yvonne de Gaulle? Non. De Bernadette Chirac? Non, heureusement pour elle, elle est toujours vivante. De Margaret Thatcher? Non plus. Malheureusement pour ses victimes, elle est toujours vivante. Alors de qui? De Germaine Tillion. Alors voilà qu'après l'abbé Pierre, Lucie Aubrac, Aimé Césaire, voilà que notre actuel président de la République rend hommage à Germaine Tillion. Et finalement, je me dis, il est arrivé au bon moment. Depuis un an disparaissent tous ceux qui se sont engagés dans des combats politiques, qui s'opposaient justement à l'action menée successivement par le ministre de l'Intérieur, puis des Finances de Chirac, puis par l'actuel président de la République française. Alors je me dis qu'il doit rire sous cape quand il assiste soit à leurs enterrements, soit aux différents hommages qui leur sont rendus. Dans la notice biographique que Sud-Ouest Dimanche consacre aujourd'hui à Germaine Tillion, on peut lire notamment... Outre le fait que dès juin 40, révulsée par le discours du maréchal Pétain, elle a cofondé le tout premier mouvement de la résistance, le réseau du musée de l'homme, c'est pas mal comme nom symboliquement, je trouve. Et qu'en tant qu'ethnologue, elle a créé en Algérie, à partir de 1955, des centres sociaux pour les ruraux musulmans déplacés, dont elle a dénoncé la clochardisation, et qu'elle a analysé les dysfonctionnements de la société coloniale, enquêter sur la torture et les lieux de détention. C'est pas beau ça. Et c'est Nico qui lui rend hommage.
Oui, pas de chance pour notre président. Et plus mauvais résultat en matière de popularité pour un président de la Ve République au bout d'un an. Et de beaucoup. Et en plus, Aimé Césaire est mort. Hommage très consensuel, très émotionnel à Aimé Césaire. On insiste beaucoup sur l'œuvre poétique d'Aimé Césaire, mais on oublie évidemment l'œuvre politique d'Aimé Césaire. On oublie par exemple que en février 2005, Aimé Césaire avait refusé de recevoir Nicolas Sarkozy, et on oublie encore davantage de donner la raison de ce refus. Eh bien, ce refus venait de la loi de février 2005 qui mentionnait, je cite, « le rôle positif de la présence française outre-mer ». Quelque chose qui n'avait pas plu, évidemment, à Aimé Césaire. Et en mars 2006, il avait fini par accepter la visite de Nicolas Sarkozy, qui insistait beaucoup. Et lors de cette visite, Césaire a offert un exemplaire de son livre « Discours sur le colonialisme » qui date de 1950. Je crois que c'est pas mal de mentionner ce genre de choses. Sinon, on assiste à un simple détournement de cadavre. Aimé Césaire a voulu dire certaines choses, et ces choses qu'il a voulu dire, il a pris le soin de les écrire. Aussi, ne faut-il pas forcément le passer sous silence, que la minute de silence ne dure qu'une minute, mais pas davantage. Aussi, on mettra sur le site labas.org un extrait de ce discours sur le colonialisme qui date de 1950, ainsi qu'une lettre qui date de 1956, écrite par Aimé Césaire à Maurice Thorez, qui était à l'époque le secrétaire général du Parti communiste français, où il réglait ses comptes avec Maurice Thorez, mais avec le Parti communiste français. Deux éléments qui sont, que vous pouvez tout de suite aller voir sur un site très, très intéressant qui s'appelle « Les mots sont importants ». Et puis, nous, dans les heures qui viennent, eh bien, on vous le mettra en ligne dans labas.org. Il semble intéressant, si on veut rendre vraiment hommage à certains hommes, de ne pas les édulcorer de façon trop consensuelle. Même chose, évidemment, pour Germaine Tillon et cette grande figure de la résistance et dans sa lutte aussi contre la torture et pour l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, nous, on sait que c'est les vacances. Alors, on va vous proposer avec Antoine Chao d'aller promener vos enfants dans la région parisienne. Par exemple, chez Papa, la chaîne de restaurants chez Papa à Paris, ou bien la pizza Marzano, avenue de l'Opéra, d'autres endroits. Enfin, il y a de plus en plus d'endroits dans le 91, dans le 92, dans le 93, dans le 94, d'entreprises de nettoyage, etc. Pourquoi ? Eh bien, dans tous ces endroits-là, vous pouvez rencontrer des travailleurs sans papier qui se sont mis en grève pour leur régularisation. C'est une première. Ces sans-papiers sortent du placard, sortent des cuisines, sortent des chantiers, pour dire on en a marre, de travailler, d'avoir des salaires, de payer des impôts, de payer des charges sociales et de n'avoir pas de papiers. Vous suivez cette petite révolution, l'air de rien, parce que tout d'un coup, on voit associé à l'expression « sans-papiers » le mot « travailleur ». Et ça, c'est un mot qui était complètement oublié, désuet, ringard, et qui revient en première ligne ces jours-ci, et en première page ces jours-ci dans nos journaux, y compris d'ailleurs sur Inter. Ça valait le coup qu'on fasse ce petit, avec Antoine Chao, ce petit tour pour promener vos enfants pendant ces vacances qui commencent. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, j'entends tous les messages des auditeurs qui ont entendu l'émission sur le relooking pour les chômeurs et les formations obligatoires sous peine d'être radiés. Ils sont tous très choqués, mais il faudrait quand même rappeler qui a signé le PAR, qui a contraint tous ces chômeurs à accepter n'importe quoi, qui a imposé, qui a fait comprendre que le chômage c'était la faute aux chômeurs et pas une situation économique inique, qui... Il y a quand même des syndicats qui sont responsables de ça, la CFDT, la CGC, la CFTC, qui ne cessent pour avoir des postes dans des commissions à l'UNEDIC qui financent leurs syndicats et qui financent les gens qui font partie de ces commissions. C'est ces syndicats-là qui sont responsables. L'immense différence entre la droite de Sarkozy, de Raffarin, de Fillon, cette droite très dure, cette droite violente, et la CFDT, c'est que la droite, elle repasse devant les électeurs à l'UNEDIC et toutes les réformes successives. Quand on a moins de 55 ans, maintenant c'est 23 mois de chômage maximum auquel on a le droit, et on est contraint d'aller prouver à l'UNEDIC, à la CEDIC qu'on travaille. C'est pas l'État, c'est pas la NPE qu'on va le prouver, c'est à la CEDIC sous peine d'être radié. Et qui sont les responsables de ces signatures? C'est la CFDT en tête, suivie des deux petits larbins, CGC et CFTC. Il faut le rappeler, ça a quand l'émission sur les grands partenaires sociaux, les partenaires dits sociaux, la différence entre la CFDT et le MEDEF et la droite, c'est que la CFDT, elle repasse jamais devant les électeurs. À l'UNEDIC, il y a cette représentation absolue et ces gens sont irrévocables. Ils sont là et puis c'est tout. Et ils se financent en signant avec le MEDEF. Comme ça, ils ont les voix du MEDEF pour se faire élire après à l'UNEDIC. C'est ça le scandale démocratique. La perte des droits sociaux, c'est pas la droite, parce que la droite, ils ont peur de repasser devant les électeurs. Ils en rêvent, ils les initient, ils communiquent dans les médias pour qu'on perde des droits sociaux. Mais qui signe à chaque fois les retraites?
Bonjour, c'est Nicole de Valenciennes. Je m'adresse à tous les citoyens du Valenciennois et je veux les informer que parti de Lille, samedi 19 avril, la marche des sans-papiers fait étape à Valenciennes ce lundi 21 avril. Venez nombreux les accueillir et les soutenir. À 16h, place d'Anzin, à 17h, place d'Armes à Valenciennes, et à 18h, venez participer au débat sur la politique d'immigration actuelle qui aura lieu à la maison de quartier, 10 rue des Ursulines, près de l'église Notre-Dame à Valenciennes. On vous y attend.
Bonjour Daniel, tout là-bas si j'y suis, et les AMG. Ici le repère d'Aix-en-Provence. Le prochain rendez-vous annoncé, c'est mardi 22 avril, 19h30, à la brasserie Le Mansart. Alors Le Mansart, ça se trouve place Martin Luther King, dans le quartier d'Ancagnan. Nous aurons deux invités, deux avocats au barreau d'Aix-en-Provence, pour le thème suivant. Justice, deux points, le sens des réformes. Alors venez découvrir le repère, si vous ne le connaissez encore pas, à 19h30 au Mansart, ce mardi 22 avril. Merci, à bientôt.
Bonjour Daniel Mermet, c'est René de Guyancourt. Je viens d'apprendre que maintenant nous allons porter de 60 ans, enfin le Sénat va proposer de porter à 60 à 75 ans l'accès aux archives de Vichy notamment, ou de l'Algérie. Alors autant te dire que 75 ans, il n'y aura plus personne, le français lambda, ben, ça sera terminé. Hein. Ses enfants, ses petits-enfants, eh bien, ils ne sauront pas ce qui s'est passé hein, pour leur père ou pour leur mère ou pour etc. etc. Parce que moi-même j'ai eu énormément, je suis un français lambda, un papa qui a été fusillé le 8-8-44, j'ai eu énormément de mal à avoir les archives, je les ai eues mais avec beaucoup de mal, on les a refusées pendant des années et même après, parce que en 2007 on me refusait des archives de 44, donc les 60 ans étaient passés, on me disait monsieur non, il faut la prescription, et j'ai dit mais attendez, 2007 ça fait 63 ans. Et malgré cela, j'ai eu un mal fou pour savoir comment mon papa était décédé, qui l'avait arrêté. J'ai eu quand même l'arrêt, de réquisition d'un wagon de la SNCF pour le transporter dans un camp, escorté par des agents de police. Le nom de son employeur qui l'a dénoncé, Monsieur Delgoff, etc., etc. Et je crois que maintenant, avec 15 ans, c'est terminé. Dans moins de 15 ans, c'est sûr que je serai décédé et que tout ça, j'aurais jamais pu en avoir accès.
Alors, vous avez reconnu? C'est le gouvernement qui communique avec son peuple, le gouvernement français, là, actuel. Ils nous prennent pour des ânes, mais eux, c'est des gallinacés.
Solidarité avec les salariés sans papier en grève. Signez la pétition. des rues de la Boétie, dans le 16e. Alors, il y a, c'est dimanche, il est à peu près 17h. 16h.
16h.
Un nouveau restaurant là qui vient d'être c'est ça, occupé par ses employés?
Tout à fait, par des travailleurs sans papier et par leur soutien syndicaux. Ouais.
Leur soutien syndicaux, c'est-à-dire l'Union syndicale solidaire et la CNT, quoi, qui participent donc avec la CGT à cette la vague actuelle qu'il y a en Ile-de-France de mise en grève des travailleurs sans papier, puisque en Ile-de-France, aujourd'hui dimanche, ce matin du moins, on comptait déjà 500 travailleurs sans papier en grève dans toute l'Ile-de-France, ce qui est déjà très bien, donc sous l'impulsion de diverses organisations, à commencer par la CGT, Solidaire et CNT.
Bonjour.
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 Vous êtes
France Inter.
France Inter,
d'accord. Ouais.
D'accord, c'est bon. On doit en avertir les autorités comme quoi il y a déjà la presse qui s'est déplacée.
Ah oui, vous pouvez, oui, oui.
Pas de soucis, ça marche.
Voilà. C'est ça le problème du coup, il y a déjà des autorités, ils ne pourront plus charger tranquillement la presse. Ils pourront plus charger tranquillement.
Solidarité avec les salariés sans papier en grève. Signer la pétition, participer à la collecte financière.
Salut, c'est la Bassif, j'y suis, Daniel Mermet, avec Antoine Chao, immigré, travailleur, sans papier, les nouveaux people.
Flight number 2, arriving.
Moi, je suis Hélène Carrère, j'appartiens au GISTI. Qui est une association membre du collectif Unis contre l'immigration jetable. Et ce n'est que le début, le mouvement a commencé, c'est intéressant de le noter, en Ile-de-France avec un peu plus de 300 sans-papiers, nous en sommes aujourd'hui à 700, et ces 700 ne représentent qu'une infime part du nombre de sans-papiers potentiellement concernés. Les estimations tout à fait officielles varient entre 200 000 à 400 000 ou 500 000 sans-papiers en France. On sait que l'essentiel de ces sans-papiers travaillent, pas forcément tous les jours de toute l'année, mais qu'ils travaillent, il faut bien qu'ils travaillent, et donc potentiellement en France, c'est 400 000 personnes qui peuvent se mettre en grève demain.
Alors 700 aujourd'hui, chaque jour, ça augmente, et arrivera-t-on à 1000, 5000, 10 000, 15 000, à quoi ressemblerait notre pays si, comme ça a été le cas aux États-Unis, vous vous souvenez, une journée sans Mexicain, eh ben on y va, on y va doucement. À quoi ressemblerait notre pays si les travailleurs salariés sans papier arrêtaient le boulot? À quoi ça ressemblerait? À quoi ça ressemblerait dans différentes branches, que ce soit la restauration, le bâtiment, l'agriculture, et aussi l'aide à la personne. On oublie que dans ces travailleurs sans papier, il y a des travailleuses sans papier s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées. Et que se passerait-il, que se passera-t-il lorsqu'elles se mettront en grève à leur tour pour demander des papiers? C'est que on peut pas tout délocaliser. On peut pas délocaliser votre grand-mère pour que des Chinois des Philippins s'en occupent là-bas. Non, les grand-mères, on les garde ici. Les enfants, on les garde ici. Les bâtiments, malgré tout, eh bien, on les construit ici. Les restaurations, eh ben, on mange quand même encore ici. Ça s'appelle la délocalisation sur place. C'est-à-dire, si on ne peut pas porter la production vers les pays à bas salaire, vers les pays pauvres, eh bien, on amène les pauvres dans nos pays pour leur faire le boulot. C'est une vieille coutume, ça ne date pas d'hier. Sauf que là, ils en ont un peu marre, quoi. Ils trouvent que ça suffit. Ça suffit d'autant plus que les charters, les reconduites se multiplient avec ces scènes tout à fait répugnantes dont on a beaucoup décrit dans cette émission. Mais pas seulement, bien évidemment, l'indignation quand même monte. Et c'est dans ce climat-là que les syndicats, avec la CGT en tête, mais d'autres syndicats aussi, comme la CNT, des associations comme Solidaires, comme Droit Devant, aussi Logistie, etc., ont réussi à conduire cette action tout à fait, évidemment, encourageante, et par des gens très courageux. C'est quand même eux qui sont l'essentiel, ces travailleurs, ces cuisiniers, ces maçons, ces employés divers et variés, qui qui simplement réclament des papiers, réclament une régularisation de leur situation. Eux qui, depuis des années, souvent, travaillent avec des fiches de paye, avec des cotisations payées à toutes les caisses possibles et imaginables, payant même des impôts, mais qui risquent de se faire reconduire à la frontière d'un instant à l'autre, un instant qui peut être déclenché, par exemple, par un employeur auquel ils peuvent déplaire. Parce que le système, les emplois, le secteur que j'ai évoqué, c'est 150 métiers dans ce secteur. On dit, ah ben oui, c'est parce que les Français veulent pas faire ce boulot. Mais pourquoi les Français ne veulent pas faire ce boulot? Et bien parce que c'est mal payé. Et pourquoi c'est mal payé? Ben parce qu'il y a la possibilité d'employer des sans-papiers qu'on peut sous-payer. Alors, voilà pourquoi il y a des sans-papiers. C'est pour pouvoir les sous-payer. Alors on voit que les patrons sont solidaires. Les patrons solidaires, non, c'est des patrons qui sont contraints. Voilà, ce qu'on peut appeler des bons patrons, c'est des patrons qui sont contraints. S'ils veulent pas fermer leur boîte, eh ben, il faut qu'ils négocient. On appelle ça négocier. Les patrons ne sont jamais des bons patrons, pas plus que les lions ne mangeront un jour de la salade. C'est là-bas si j'y suis, c'est jusqu'à 16h sur France Inter.
Maman, je pense à toi, je t'écris. Bien trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque d'erreur. Pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Du dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Tu n'es pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
Petit à petit, le mouvement s'étoffe. Les salariés sans papiers sortent de l'ombre en Île-de-France et brisent le tabou du travail clandestin. On estime qu'ils sont plus de 500 à travailler en région parisienne malgré leur situation irrégulière. Franck Madbon.
Midi moins le quart, les militants de Droit Devant et de la CGT entrent dans le café de la Jatte, ce restaurant en plein cœur des plus beaux quartiers de nuit.
Jean-Claude Amara, alors, Droit Devant et sur le front. Donc là, aujourd'hui, on est à l'île de la Jatte. C'est quand même assez emblématique, là, cette lutte qui démarre ici.
Ah oui, d'autant plus qu'à 200 mètres à vol d'oiseau, il y a la maison de notre ex-ministre de l'Intérieur, aujourd'hui président de la République, qui en faisait sa cantine à l'époque et qui est fréquentée voilà, depuis longtemps par des personnalités éminentes. Hein, voilà. Oui, alors maintenant, attendez. Alors maintenant, soyons clairs sur ce mouvement qui est lancé depuis le mardi 15 avril. Il y a l'île de la Jatte, le 15e endroit de grève, puisque maintenant, au dernier recensement, 560 travailleurs sans papier sont en grève. Donc, ça s'inscrit évidemment dans un cadre général. Et il est clair que maintenant, M. Xavier Bertrand, ministre du Travail, n'a plus qu'une chose à faire, c'est de mettre fin à cette situation, de prendre enfin, d'arrêter ce jeu de patates chaudes et de délivrer la régularisation à tous ces travailleurs sans papier en grève depuis le 15 avril.
Mais on peut estimer à combien de travailleurs sans papier ? aujourd'hui en France ?
En France, il est certain qu'il y a entre 400 000 à 500 000 travailleurs sans papier. Ça, c'est pas nouveau. Dans toute la France, dans les fins fonds de la campagne, des villages, dans les grandes villes, partout, il y a des travailleurs sans papier. Vous les retrouvez dans les champs, vous les retrouvez dans les chantiers, vous les retrouvez sur les grues, vous les retrouvez au fournil de boulanger, vous les retrouvez dans les usines, vous les retrouvez dans les nettoyages, dans les bureaux. Les sans-papiers, les travailleurs sans-papiers sont absolument partout. Ils font partie maintenant, entre guillemets, d'un décor qui est pas acceptable. Ça fait depuis 1974 que Giscard d'Estaing a fermé les frontières pour la carte de séjour. Depuis donc maintenant plus de 30 ans qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs sans papier qui font vivre l'économie de ce pays, qui payent un nombre incalculable de cotisations en retraite dont ils ne verront jamais la queue d'une cerise, qui payent un nombre incalculable de cotisations assédiques dont ils ne bénéficieront jamais et qui sont en définitive les esclaves des temps modernes. Donc il est clair qu'aujourd'hui il faut mettre un terme à ça. Voilà, donc si vous voulez, il y a un truc qui est très clair. Les patrons de l'île de la Jatte nous disent: vous avez focalisé sur nous. Mais non, focalise pas sur plus l'un sur l'autre.
Que nous faisons travailler des gens au noir. Que nous faisions travailler des gens qui n'ont pas de papier en règle, alors que nous déclarons des bulletins de salaire, etc. C'est ça le problème. C'est pas que nous faisons travailler des gens au noir, parce que ça, c'est très pervers. C'est pas vrai. Si, on vient de me dire ce que vous avez dit. Vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. On vient de me dire ce que vous avez dit sur France Info ou sur je ne sais pas quoi. Que c'était un restaurant où venaient dîner des élites politiques, etc. Ouais. Et qui se faisait servir par des gens sans papier.
Je vous dis que des travailleurs sans papier donnent à bouffer à des politiques qui ne cessent de dire faut expulser les sans-papiers. Je trouve ça absolument extraordinaire et paradoxal. C'est ce que j'ai dit. Enfin, voilà.
Je suis moi victime du système.
Voilà.
Bon, mais faut pas que l'on m'assimile au fait que je sois dans l'autre sens.
Vous n'avez pas une vision globale de la situation, vous avez le regard étriqué sur votre... Sur
oui,
votre...
j'ai un regard étriqué. Oui.
C'est normal, c'est normal. Mais regardez aussi autour de vous. Quand on fait travailler comme ils le font, de toute façon, des travailleurs qui font un poste pour deux, qui n'ont pas d'heures supplémentaires de payer, parce que voilà, nous on va pas engager la polémique, mais on connaît, on a regardé les fiches d'affaires des copains, on connaît le boulot qu'ils font, on sait très bien dans quelles conditions de travail ils bossent, c'est tout, point à la ligne. Bon.
Il y a toute une population là, un prolétariat qui découvre ses droits. Non, c'est quand même assez encourageant, quoi, non ?
Ben oui, parce que
pour les leaders sociaux,
c'est exact. Non, mais c'est ben oui, parce que c'est pour ça qu'on veut aussi tisser des mouvements de solidarité. Qu'est-ce que fait un gouvernement comme celui-ci, qui sont les purs jus du capitalisme pur et dur, c'est de casser d'abord et de briser les solidarités entre les uns et les autres, pour mieux enfoncer les droits qui déjà sont pas mal détruits. Si ces travailleurs sans papier retrouvent tous leur régularisation, s'ils rentrent dans leurs droits, c'est un point fondamental sur le dumping social, c'est-à-dire qu'en fait, la mise en compétition de ces travailleurs exploités, corvéables et travailleurs à merci, sert évidemment à détruire et à saper les acquis sociaux des travailleurs français immigrés avec papier. Donc, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est une lutte de travailleurs entre eux. Et le fait que des travailleurs sans papier aillent rencontrer maintenant des ouvriers en grève à IBM, soient accueillis par les mecs de la RATP qui se battent pour leurs droits, etc. Bon, je crois qu'il faut ravauder les solidarités, c'est comme ça aussi qu'on va avancer.
Solidarité avec les salariés sans papier en grève. Signer la pétition, participer à la collecte financière.
Alors, on ne sait pas si le président de la République nourrit les Africains, mais en tous les cas, on découvre que les Africains, sans papier, ont nourri le président de la République lorsqu'il se rendait dans ce charmant café La Jatte à Neuilly, 60 boulevard Vital Bouhot, île de la Jatte, 92 200 Neuilly-sur-Seine, 01 47 45 080. Je vous dis ça pour vos prochaines réservations. D'ici là, bah, c'est actuellement les cuisiniers occupent un peu le lieu, donc vous pouvez leur rendre visite. Ils sont très sympathiques, très souriants. Ils expliqueront à vos enfants, emmenez-les là pour découvrir un peu le monde. C'est un très bel endroit. Vous leur parlerez évidemment de Renoir, n'oubliez pas. Oui, en passage, la Grenouillère, Renoir, les courbes de la Seine, l'impressionnisme, etc. Très jolie balade. Et voilà, maintenant, bah, dans la toile de Renoir, il y a des cuisiniers africains. Ce que Renoir n'aurait pas loupé, parce que ça fait des très très belles composition, voire Manet, le bouquet. Alors, On continue, petite digression picturale, et on continue. C'était hier. La Boétie, c'est hier après-midi. La Jatte, c'est depuis deux jours. Et là, on va recommencer par le commencement. C'était le 15 avril. Et c'était chez papa. Alors, en fait, quand je dis ça a commencé par le commencement, ça fait déjà un bout de temps que ça dure, ces histoires, évidemment, d'occupation par des sans-papiers de leur lieu de travail. Ça a commencé en février, au restaurant La Grande Armée. Ensuite, ça a été chez Buffalo Grill, etc. Et enfin, le 15 avril dernier, tout d'un coup, là, ça a explosé. Il fallait énormément à la fois de courage, d'organisation, et jusque-là, ça marche, ce qui n'est pas simple quand on sait ce que sont les rivalités entre les associations et les syndicats. En tous les cas, chez papa, c'est là que ça a commencé, 206 rue Lafayette à Paris, dans le 10e métro Louis Blanc, ça se passe pas si mal que ça.
Alors l'accueil dans le quartier là, du voisinage?
Le voisinage est très... on est à plus de 1000 signatures en deux jours, même pas deux jours, puisqu'on a commencé mardi après-midi, donc c'est significatif. Puis un bon climat, il n'y a pas de soucis.
C'était un restaurant assez populaire dans le quartier, non?
Oui, c'est un restaurant qui est assez populaire. Oui, ça n'empêche pas d'être confronté à ce genre de problème en même temps.
Mais tout ça en cuisine, quoi.
Oui,
au-delà du regard du client.
Principalement en cuisine. Alors les 32 salariés qui sont en grève aujourd'hui ne viennent pas que de ce restaurant-là, mais de la chaîne chez papa. Hein, il a 4 restaurants sur Paris. Et donc ça vient, on a regroupé ici, puisque c'est le siège, l'ensemble des salariés sans papier. Ici, mardi, on a commencé à 10h30. On avait 23 salariés en grève. Aujourd'hui, on en a 32. Solidarité. Il y en a des comme ça. Solidarité avec les salariés sans papier en grève.
Non. Alors là, on est vendredi matin, chez papa dans le 10e. Et donc la lutte continue. Hein. Donc justement, la photo du patron dans le Libération du jour, hein, donc la vedette, enfin le héros de la lutte. Donc patron sans papier, même combat. Donc bon, on a un peu du mal à y croire comme ça. Mais
patron sans papier, même combat. Non, c'est patron obligé de reconnaître aujourd'hui que sans les sans-papiers, il ne vivrait pas. Donc à un moment donné, si on a depuis ce matin les deux fédérations de la restauration qui demandent la régularisation, c'est qu'ils savent très bien que sans ces savoir-faire qui sont acquis par les salariés, sans papier, ils ne fonctionneraient pas, ils ne pourraient pas faire leur beurre. La CGT, on souhaitait poser le débat comme ça, c'est-à-dire effectivement...
Hervé, militant de base, CGT.
Que sans son papier, ils n'arrivent pas à vivre, donc ils sont obligés aujourd'hui de demander la régularisation. Il y a une émergence d'un prolétariat qui s'exprime aujourd'hui et qui se fait connaître, voilà, qui se fait connaître. C'est des gens qui sont là, qu'on ne voit pas parce qu'ils sont cachés dans les cuisines, hein, mais ils sont là, voilà. Hein, aujourd'hui, on en a 33 grévistes, hein, 33 sans papier sans grévistes, de la chaîne de restaurant Papa. Hein, et uniquement Papa ici. Là, alors après, il y a eu, c'est une action concertée de la CGT qui est très clairement d'occuper et de mettre le patronat en difficulté sur les questions de l'utilisation des sans-papiers dans différents pans de l'économie. Hein, donc ça concerne aussi bien le bâtiment, la restauration, la sécurité, le nettoyage. Qu'est-ce qu'il y a encore, la distribution. Et c'est 12 sites, mardi matin, à 9h30, qui sont mis, à 10h30, pardon, qui sont mis en grève avec l'occupation des locaux. L'idée, c'était l'impact fort, c'était de provoquer une espèce de micro-séisme, un petit séisme en disant, voilà, les sans-papiers existent et ils sont partout à faire vivre l'économie, quoi, en fait. Hein. Et toute l'économie patronale est appuyée là-dessus, parce que, bon, patron sans-papier, même combat, qui est le discours du patron de chez papa, mais il précise quand même dans l'article que ça lui permettait de payer deux fois moins cher, puisqu'il dit lui-même qu'un cuisinier qualifié, il le payerait deux fois plus cher que ce qu'il propose actuellement dans le cadre des conventions à ses salariés.
Ouais, patron, sans papier, même combat, évidemment, c'est chouette, c'est consensuel, sauf évidemment, ça n'existe pas. Et ça fait longtemps quand même qu'on les observe à la dérobée, ces employés des cuisines et ces cuisiniers dans les restos, ceux, vous savez, à la fin du service qui traversent furtivement la salle avec un petit regard coulissant vers la caissière. Ah oui, c'est du sans-papier, tout ça, c'est du sans-papier. Alors chez papa, d'abord le patron s'est mis en rogne, et puis après il s'est aperçu qu'il fallait bel et bien composer, et que peut-être ce serait pas si mal finalement de composer. C'est pas forcément en arnaquant les salariés et en les traitant comme des chiens qu'on fait le mieux marcher son entreprise. On a déjà observé ça. On va voir si ça marche à tous les coups.
Ça c'est le journal du jour là. Alors c'est vous qui êtes sur la photo ou pas?
Ouais. Elle est là.
Ah ouais. Alors c'est la photo avec le patron. C'était quand cette photo alors?
C'était hier.
Il a toujours été comme ça avec vous le patron, parce que là il met patron sans papier, même combat.
Et à mon avis il va trouver l'inception. Il va nous chuter.
Il a intérêt quoi, non?
Il a intérêt. Parce que à ce moment il a perdu beaucoup de l'argent. Il va nous chuter.
C'est ça le nerf de la guerre,
ouais,
c'est l'argent.
Oui, c'est ça. Ouais.
Ouais. Qu'est-ce qu'il propose, lui?
Il me dit tout ce qu'il travaille avec lui, il règle le temps.
D'accord.
Pour l'acheter.
Tous autant que vous êtes, ici, chez papa, régularisé.
C'est la régulation. Permis de session.
Pour une année, pour combien de temps?
À mon avis, pour l'instant, ça commence vers 3 mois. Ouais. Après, ça va vers 1 an, et après 10 ans.
Ah ouais?
Ouais. À mon avis, ça passe comme ça.
Et le contrat de travail, lui, c'est un contrat à durée indéterminée, c'est un CDI?
Indéterminé, oui.
Vous avez déjà un CDI ici?
Ouais,
tout ce temps que vous êtes?
Tout le monde sont des CDI.
D'accord.
Ils sont des contrats de trémine. Hein. Voilà.
Donc ça c'est bien, ça.
Donc ça, c'est normal.
Ouais. Mais alors, il avait licencié 4 d'entre vous, c'est ça?
Ouais, il a licencié 4 personnes.
Parce qu'il a eu peur
d'avoir
une amende, c'est ça?
Ouais, il a eu peur.
Mais il en a parlé avec vous ou il a licencié sans en parler avec vous?
Il s'est licencié sans parler avec nous.
Ah, c'est maintenant qu'il parle quoi?
C'est maintenant qu'il a dit.
Ouais. C'est maintenant qu'il pose sur les photos.
Ouais.
Avant, il ne posait pas sur les photos.
Non, avant, il ne pose pas les photos. C'est maintenant qu'il a décidé. Il prend une photo avec nous. C'est maintenant qu'il l'a montré, il a fait comme nous. Ouais, mais avant, il guère, en tout cas.
Alors c'est bien, c'est une bonne nouvelle, ça. Il a changé d'attitude, quoi.
Il a changé d'habitude.
Bon, ça c'est une bonne chose. Alors maintenant, il est prêt à vous aider, à avoir des papiers.
Maintenant, il est prêt. D'accord. Pour nous tous, on aura un papier. Comme ça, c'est bien pour nous, c'est bien pour lui aussi.
Et il paye bien quand même ou pas?
Ouais, il paye bien. Quand même, il est sympa, il paye bien.
Ouais, il est sympa, il paraît, ouais. Bon, ça c'est une bonne chose, ils s'en tirent bien. Hein.
Ah, ça c'est bon, ouais. Ça c'est une bonne idée, ça.
Ouais, c'est une bonne idée qu'il vient d'avoir là. Donc, et en plus, ils vous laissent occuper le restaurant.
Maintenant, c'est nous qui les responsables.
Et au début, il avait coupé l'électricité, il interdisait d'utiliser les toilettes, ça y est, maintenant il vous laisse.
Maintenant, il laisse tout. Au début, il a coupé le courant, la toilette, elle est fermée, on ne boit pas de café, mais maintenant, on fait tout ce qu'on fait.
D'accord. Et il vous laisse utiliser la douche ou pas encore?
La douche passe encore.
Ah, pas encore.
Passe encore la douche.
Donc, il peut encore devenir encore un peu plus sympa, quoi.
Ouais, il va devenir encore un peu plus sympa.
Ouais, mais peut-être qu'un jour, les patrons seront sympas, nous, on espère, on sait. Hein.
Ouais, j'espère. Hein.
Bon, c'est un bon début, on va dire.
Hein, un bon début,
c'est un bon début. Mmh. Et on espère que vous aurez tous rapidement vos papiers.
Mmh.
Et que tout va rentrer dans la normalité. Enfin,
tout
ira pour le mieux dans le meilleur des mondes libéral possible.
C'est bien.
C'est ça.
Ouais. Enfin, c'est ça qu'on fait.
Dans le libéral, c'est d'ailleurs que lui, patron, est un bon patron. Donc il fait travailler des gens.
Mmh.
Et il gagne de l'argent, vous gagnez de l'argent. Enfin, lui, il en gagne plus, forcément.
C'est lui qui gagne plus que nous.
Ah, c'est ça.
Ah, ouais, parce que tu es sûr, il y a la somme qui vire son compte. Donc voilà, c'est lui qui gagne plus que nous.
Ouais. Mais bon, ça sera un autre combat, ça, plus tard.
Ça sera un autre combat.
De changer le système pour que tout le monde gagne la même chose.
Il faut que tout le monde gagne la même chose.
Vous croyez aussi qu'il faut faire ça?
Ouais.
D'accord.
Je suis
prêt, on se reverra bientôt alors
pour
parler de cette deuxième bataille.
Cette deuxième bataille, on verra. On verra qu'est-ce qui se passera.
D'accord. Et là, ça vous fait plaisir d'être en photo alors?
Ouais, ça fait plaisir.
Ouais.
Ça me fait plaisir même.
Et alors la famille l'a vu, etc.
Ouais, toutes les familles sont vues. Tous les jours on m'appelle, on t'a vu sur la télé, on entend.
À la télé aussi?
Ouais, la télé, on est passé vers la télé. Il cite les journaux, il voit ma tête sur l'air. 20 minutes, Donc ça fait plaisir.
Et est-ce qu'il y a des amis à vous qui travaillent dans d'autres entreprises et du coup qui ont envie de faire la même chose?
Ouais, il y en a plein.
Ils viennent? Ils sont venus?
Ouais, ils sont venus nous voir. Ils me disent, oh, nous aussi on va le faire comme vous. Comme ça, nous aussi on va les gagner.
Bon, bah il faut gagner pour leur donner envie de le faire, quoi, de passer à l'acte.
Ah, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Faut qu'ils gagnent. Hein. Faut gagner. Voilà. On ne laisse pas faire. Bon. Faut qu'il gagne.
D'accord.
Dès qu'il n'aura pas son papier, faut pas qu'il laisse le stress ouvert. Faut qu'il gagne son papier d'abord. On a préparé ça, ça fait presque 3 mois. 3 mois de préparation. Tous les jours, on parle avec les syndicats, ils me donnent un conseil. Dès qu'on part au travail, il n'y a personne qui dit, on n'appelle pas, on ne rencontre pas les téléphones.
Ah, il fallait faire attention. Donc, voilà, pas que ça s'ébruite.
Ah ouais, il faut le faire attention.
Et le jour J, paf, tout le monde a sorti sa banderole, on est gréviste.
On est gréviste, c'est comme ça.
Il faut être solidaire, quoi.
C'est ça la vie.
Ah ben, on dirait que le patron, il a allumé la...
Ouais, le patron, il a allumé les lumières, là.
Des fois, il l'éteint, des fois, il allume.
Ouais, des fois, on demande, il a été c'est par là, il est de ce côté-là.
Alors, des fois, s'il est de mauvaise humeur, il éteint.
Des fois, quand il a mal, là, il a éteint la lumière. Il me dit, vous restez comme ça, c'est bien.
Donc, il continue à faire un peu le patron, quand même.
Ouais, il continue à faire. Ah, il est sympa, quand même, hein.
Il est sympa, mais c'est le patron.
C'est le patron.
Ouais. Ouais. C'est lui qui décide.
C'est lui qui décide.
C'est pas vous.
Non, c'est pas nous.
Pas encore.
Pas encore pour l'instant. Ouais.
Bientôt.
Bientôt.
Bientôt. Il faut collectiviser le restaurant.
Voilà, bientôt.
Tous patrons.
Tous les patrons, c'est comme ça. C'est comme ça.
C'est la prochaine étape.
C'est la prochaine étape. La deuxième étape, ça vient. La deuxième étape, c'était augmentation du salaire. Mais ça vient.
Ça aussi, ça vient.
Ah, ça aussi, ça vient.
Ah, là, vous avez demandé l'augmentation des salaires aussi.
Ah, il va le faire.
Régularisation et augmentation des salaires.
On n'a pas besoin, de faire la grève ou on parle d'exécuter comme ça avec lui. Il va le faire.
Ça va s'arranger. Ouais, ça va être une négociation. Quoi. Bravo.
Merci.
Autour du feu là, et vous écoutez la radio, ils donnent un peu des infos là sur le mouvement de grève sur Africa ou pas? Africa numéro 1
pour les ingérer un damné.
Alors dites-moi ici, donc vous occupez le chantier, c'est un chantier de démolition?
Oui, c'est un chantier de démolition. Oui.
Et vous êtes combien de grévistes?
On est 21. 21.
Donc depuis
mardi.
Depuis mardi dernier.
Là,
ouais.
Oui.
C'est quoi le chantier? C'est cette maison là que vous démolissez?
Oui, c'est une maison.
Ici sur ce chantier, on est 22 personnes en grève. On démolit cette maison de 3 étages. On doit faire descendre 2 étages à la main avec les masses de 4 à 5 kilos à la main. Vous voyez toutes ces merdes-là, on a tout fait descendre à la main. À l'intérieur, il y a des tonnes de gravats. Tout était cassé à la main, fait descendre avec des pelles à la main.
Alors là, voilà, un endroit où vous pouvez... emmener vos enfants sur ce site qui est un chantier, vous avez compris, un chantier de démolition. C'est dans le 13e arrondissement de Paris, rue Xaintrailles, avec un X, rue Xaintrailles, dans le 13e arrondissement. Et là, eh bien, des travailleurs sans papier se sont eux aussi, à leur tour, mis en grève. Alors, les conditions de travail dans les restaurants, chez papa, bon, ça a l'air d'être des conditions à peu près, enfin, normales, ou du moins ordinaires, on va dire. Là, les conditions sont un petit peu différentes dans ce chantier de démolition.
Ici, sur les sentiers, on n'a pas d'eau, ni électricité, on n'a pas de douche, pas de toilette, il n'y a rien. Même si tu as envie de pisser, il faut aller prendre un café pour pouvoir pisser.
C'est toujours pareil dans cette boîte-là ?
C'est dans cette boîte, les autres sentiers, c'est toujours pareil. Il y a des sentiers, même c'est plus pire que ça. Mmh. Parce que ça, c'est des molières. Il y a des sentiers, c'est des bétons armés. Il faut être sur les mers toute la journée avec marteau-piqueur.
Quel genre de contrat vous fait le patron ?
Nous qui sommes même sans papier, il y en a qui sont embossés. Il y en a qui travaillent sous contrat, on te fait contrat de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Après, on te laisse à la maison 2 semaines, 1 semaine, on te reprend.
Donc, c'est des contrats à durée déterminée à chaque fois.
Voilà.
D'accord. Et le patron, il sait que vous êtes sans papier ?
Les patrons, ils savent bien que nous sommes des sans papiers. Particulièrement moi-même, quand j'ai commencé le boulot, je travaille par nom de quelqu'un, pas par mon vraie identité. J'ai commencé le travail. Des jours, troisième jour, il est débarqué sur le chantier. En me voyant, il m'a dit, je t'ai reconnu. Toi, tu n'es pas tel nom. Toi, tu es Ndiaye. Je lui ai dit oui. Bon, moi, je m'attendais d'être licencié. Il a dit comme ça, il a rigolé. Après, il m'a dit, mon petit, on va aller prendre un café. On est allé prendre un café. Il m'a rien dit. Il m'a plus jamais parlé sur ça. Depuis 10 ans, je travaille sur ces conditions. 6 jours sur 7, sur les contrats, c'est 35 heures. On travaille 45 heures par semaine.
Et il paye combien ?
Moins de 1200.
Il profite de la situation, quoi.
Ben oui. Quand il t'absente un jour, il te coupe à peu près 100 euros.
Alors, comment s'appelle la société ?
TDBM.
TDBM.
Voilà. On est 23 salariés.
Et le siège social et tout ? À Blanc-Ménil ?
À Blanc-Ménil, oui.
D'accord. Et lui, c'est un Français qui le gère.
C'est un Français, c'est un Breton.
C'est un Breton ?
Voilà.
Ouais. D'accord, donc là, il avait trouvé une main-d'œuvre qui était docile, quoi, qui pouvait faire travailler autant qu'il voulait et à pas cher. Voilà. Et costaud.
Et voilà, c'est ça. Ouais. Comme moi. Grand, 1m93, sur 100 kilos. Depuis 10 ans que je travaille ces conditions, ben, il y a d'autres qui travaillent depuis 5 ans, 4 ans, 3 ans, 6 ans même.
Donc vous en avez abattu du boulot, quoi, à vous.
Ah, bien sûr.
À vous tous, là, ouais.
Ben oui.
Lui, il paye les cotisations ou pas ? Sociales ?
Ça, je peux rien, en fait, je peux rien savoir. Je sais quand même, je me suis coupé la main. J'étais à l'hôpital, j'ai tout payé dans ma poche. Même P qui est resté, après, il n'arrête pas de m'envoyer des lettres. Parce qu'il y a deux personnes qui travaillent sur le même nom. L'autre ne peut pas travailler là-bas et ici, il y a arrêt maladie. C'est possible.
Ah, ça veut dire qu'il y a deux fiches de paye qui sont faites pour la même personne là...
Sur le même nom, oui. Qui veut dire quelque chose ?
L'inspection du travail n'a jamais remarqué ça.
Ben, et il peut pas remarquer ça. Où ils vont les cotisations, c'est eux qui peuvent remarquer. Et ils vont jamais dire quelque chose parce qu'il y a l'argent qui rentre dans leur caisse.
Les cotisations sociales sont payées deux fois.
Sont payées deux fois, ça, il y en a partout. Tout le monde savent, mais il y a personne qui dit rien. Ah ben voilà. C'est comme ça.
On n'est pas disponible, disposition. Il nous a réveillé quand il veille, il nous a fait travailler quand il veut. On n'a pas soin, on fait des amiantes, on le veut ou pas.
L'amiante,
oui. Même là, on a démonté des amiantes ici, on le casse dans le câble. Quand il vient la pelletesse, il va le caser dans le chantier. Parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas déclarer. Parce qu'on n'a pas le patron, on est obligé de faire. Si vous voulez vous faire, la grande porte est ouverte. Si tu dis que je n'ai pas le droit de faire des amiantes, il dit la grande porte est ouverte. T'es obligé de faire.
Ah, il vous oblige à faire de l'amiante.
Oui, on est obligé de faire. On part, on est obligé.
Et qu'est-ce qu'il en fait, lui, de l'amiante après?
Et il va détruire sur place. Au lieu d'amener des gars, des amiantes, ils vont des amiantes pour amener. Vous savez que les amiantes, c'est très dangereux.
Bah oui, oui, oui.
Voilà, mais nous, on est obligé de crasser là-dedans parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le papier.
Mais qu'est-ce qu'il en fait de l'amiante après le patron? Il
ramène avec le gravat, il va le casser dans le sentier sur place, les pelletaises, il va le charger, il va avec le gravat. Très, très malhonnête. Ouais.
Voilà. Dangereux, quoi, pour la société. Ah, c'est oui, un danger, ça.
Monsieur Foucard, c'est un vrai criminel.
Monsieur Foucard.
Monsieur Foucard. Monsieur Christophe, il s'appelle Christophe Foucard. C'est un vrai Foucard. Criminel, ouais. Ouais, ouais. Ah, il est dangereux, très très dangereux. On n'imagine même pas qu'est-ce qu'il fait sur nous. Impossible, impossible.
Et depuis des années, il fait ça, donc
Depuis des années, on est même situation. Il n'y a aucune chose qui est réglée. Voilà, viens avec moi, c'est possible.
Ramène la torche.
Des lampes. Il est là-bas. C'est bien. Des lampes.
Heureusement qu'on n'a pas des affaires. Tu vois ce tuyau là, c'est des amiantes. On a désamianté là-bas.
Il y avait de l'amiante là-dessus.
C'est de l'amiante, tout entier, c'est de l'amiante celle-là. Bon, on a coupé là-bas, on est obligé de casser ici pour que les inspecteurs travaillent quand ils passent, pour pas qu'ils voient. Obligé. On va faire
et
ça.
Et qui c'est qui ne doit pas le voir ça?
C'est l'inspecteur de travail, dès qu'il voit ça, il va arrêter le sentier.
Ah, l'inspection du travail.
Ouais, l'inspection du travail, ouais.
Une cheminée en amiante.
Ouais, une cheminée en amiante.
Donc, il vous a, et le patron vous a demandé de la démonter, de la cacher ici.
De la démonter, de la casser, c'est obligatoire. On veut ou pas, ça c'est obligatoire.
Et après, il en fait quoi de ça alors?
Ben, il est pelleté, il vient, il va casser, il va avec gravat, il ramène.
Ah, il mélange ça au gravat
ouais,
et
il
puis.
Il mélange ça au gravat, il va chercher. Depuis tout le temps, c'est comme ça.
Alors, comment elle s'appelle cette société?
Télébem, terrassement, démolition, BM, Blanc-Ménil.
Alors, terrassement, démolition, Blanc-Ménil. Et vous, quand ils vous demandent de casser la l'amiante, vous avez des masques, etc. ou pas?
On n'a rien, il n'y a pas de masque. D'accord. On sait que c'est très dangereux. Parce qu'on va télé, c'est très dangereux, c'est un truc meurtrier. Et l'amiante, tout le monde, c'est lui, c'est spécial pour l'amiante. Il a fait des stages de l'amiante.
Oui, oui, oui.
Ah ouais?
Oui. Je suis un désamianteur dans ces sociétés TDBM.
Ah, vous êtes désamianteur officiel, quoi?
Oui, je suis désamianteur officiel.
D'accord, mais attends.
Mais le jour qu'il démonte ça, nous, on n'est pas là, on était à notre sentier, en train de faire des amiantes. Mais là, qui sont là, c'est eux qui vont être obligés. Pour les faire descendre, ils sont même pas fait la formation. Normalement, c'est nous qui doit faire.
Et alors, pourquoi il vous a pas envoyé, vous, le patron?
Voilà, il nous a pas envoyé parce qu'il sait bien qu'ils veulent que les deux sentiers se marchent en même temps. Il y en a qui travaillent là, il y en a qui travaillent l'autre. Il veut pas que nous, on quitte là-bas, et après, venir ici pour faire ça, et après, on retourne. Non. Il a pas besoin de voir. Les gens qui sont là, qui travaillent là, c'est eux qui vont faire, même si on pas fait les formations. Mm-hmm. Voilà. C'est pour cela que nous, on en a marre, on a dit qu'il faut arrêter tout. Il faut arrêter tout. Maintenant, il faut arrêter tout. Voilà. Et il faut arrêter tout, voilà. Toutes les conneries, là, voilà. Ça fait longtemps qu'ils nous foutent de la merde, là, dans la merde comme ça. Même nous, avant de faire les informations de l'amiante, on fait ça. Il n'y a pas d'eau pour se laver, il n'y a rien de tout. Il peut ramener les cabanes des amiantas, mais il n'y a pas de l'eau. Il n'y a rien. Voilà, on est là, ça fait 5 ans qu'on est dans la merde comme ça, on travaille comme des cons, et même le boulot qui est dangereux, on n'a pas le droit de le refuser. Mais si tu refuses, voilà, t'es viré. Voilà, et voilà, t'es viré, il y a des trucs qui attendent, voilà. Si t'as pas content, c'est ça. Il faut le faire, c'est obligatoire. Voilà.
Alors bien sûr, la réponse de l'UMP, du gouvernement, c'est régularisation au cas par cas, bien évidemment, ce que refusent les syndicats et les travailleurs sans papier. Ils veulent une régularisation globale des travailleurs sans papier. Voilà l'apparition, le retour du mot travailleur sur la scène. C'était un reportage d'Antoine Chaot. On vous mettra un lien, c'est promis, pour que vous sachiez tout sur l'entreprise TDBM sur labas.org. On vous donnera le lien. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Labas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi donc que sur labas.org, où on vous mettra aussi les deux textes promis de Aimé Césaire sur la décolonisation, la première page de ce texte, et la fameuse lettre à Maurice Thorez de 1956. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Stéphane Poitevin, Yann Chouquet et Coyen Nguyen ont réalisé cette émission. Charlotte Perry est notre assistante chérie. Et elle s'occupe aussi du répondeur au 01 56 40 37 37. Elle attend vos messages et les plus précieux, parmi les plus précieux, ils sont tous très précieux, mais c'est ceux concernant mai 68 qui nous intéressent le plus. Vous avez été témoin, vous avez été acteur, vous avez quelque chose à dire sur mai 68. Je me souviens de mai 68. 01 56 40 37 37.